l'Afrique, continent de tous les mystères, de toutes les sauvageries et de toutes les beautés. L'Afrique où la plus grande misère côtoie les richesses des puissants et des multinationales. C'est plus précisément entre l'Afrique du Sud et le Mozambique que se situe l'action du livre que nous allons découvrir aujourd'hui. Et comme à mon habitude, je vous en livre la quatrième de couverture. Après avoir passé de longues années expatriées en Afrique, 5764 jours, Carlotta, 16 ans, s'installe en Italie, un pays natal qui n'a jamais été le sien. La valise du retour est lourde à porter. Je vis constamment avec la gorge serrée. Elle est très liée à Giacomo, son frère adoptif né au Mozambique, et à ses copines éparpillées dans le monde. Tout au long d'une année, et grâce aussi aux petits plats africains préparés par sa mère, elle va se construire un nouveau quotidien. Parviendra-t-elle enfin à oublier les éléphants ? L'auteur, qui est italienne et qui vit aujourd'hui dans les douces collines des alentours de Montpellier, nous livre ce portrait d'une famille expatriée en Afrique dans son livre « L'éléphant est déjà dans la valise », paru aux éditions La Petite Hélène. Bonjour Paola Casadei.
Bonjour Nathalie.
Paola, vous nous parlez un petit peu de vous.
Ah oui, je suis donc, comme vous avez dit, une femme italienne. J'ai quitté en réalité l'Italie depuis presque 25 ans. J'ai toujours suivi mon mari. Et tout cela m'a apporté à vivre d'abord ici en France, puis en effet quelques années en Afrique. Et maintenant, rentrée ici, bien sûr, j'ai dû abandonner ma carrière. À l'origine, je suis pharmacienne et quand j'ai quitté l'Italie, j'étais directeur technique d'une usine de produits homéopathiques. Maintenant, je suis passée à mes passions. Donc, j'enseigne, j'étais en cours de littérature italienne au Centre culturel italien Dante Alighieri et j'enseigne de l'italien pour étrangers dans une école d'ingénierie.
De la pharmacie à la littérature. C'est quoi le chemin?
Oui, non, c'est compliqué. Au début, moi, j'ai fait un bac L en Italie, mais le bac chez nous, c'est un lycée très long de 5 ans où on fait vraiment du latin, du grec ancien, des traductions, de la littérature pure. Donc, c'est juste la pharmacie qui était une petite erreur. C'était un moment où on nous disait qu'avec le choix de langue à l'université ou d'italien, on n'aurait pas eu possibilité de travailler.
C'était pareil en France.
Hein? Oui, oui. Donc j'ai suivi parce qu'on n'était pas très suivi, on ne nous suggérait rien. Donc j'aimais aussi la chimie. Donc j'ai essayé, mais je suis revenue.
Le bac en Italie, c'est un an plus tard qu'en France, c'est ça? J'ai compris que
non, c'est le collège dure 3 ans et le lycée 5 ans. Donc le bac, c'est un cursus de 5 ans.
D'accord. Bah, parce que
et on termine, oui, un an plus tard.
Carlotta, 19 ans. Est en souffrance, oui. Parce que toutes ses copines qui sont à travers le monde, Carlotta, on va en parler, c'est la jeune héroïne du livre, elle va avoir le bac, enfin, à la fin de ses études, un an après les autres. Donc, difficile pour être en fac ensemble. Enfin, voilà, c'est encore une problématique
tout ça,
de ce qu'on va aborder de la vie des expats, c'est ça, on peut dire expats.
Oui, les expats.
Vous écriviez déjà toute petite ou c'est quelque chose qui vous est venu à la maturité, dirons-nous?
J'écrivais toute petite, mais je me suis arrêtée à la fin de l'adolescence parce que je n'aimais pas trop écrire du romantique. Et avec les expériences que j'avais dans ma vie, il ne sortait que des histoires romantiques. Donc, je voulais attendre. Je me suis toujours dit que je voulais attendre d'avoir vraiment quelque chose à dire. Et quand je suis partie pour l'Afrique avec deux petits-enfants de 3 ans et 1 an, et je me suis retrouvée qu'ils étaient déjà adolescents, là, j'ai pensé que vraiment, je ne voulais pas oublier et que j'avais vraiment quelque chose à raconter. Donc, je me suis mise à...
Comme Julia, en Afrique, vous avez vécu et en Afrique du Sud et au Mozambique?
Oui, 8 ans en Afrique du Sud et 4 ans au Mozambique. De l'Afrique du Sud, je parle beaucoup, du Mozambique beaucoup moins, parce qu'on a vraiment eu des expériences très peu agréable et je ne me sens pas encore trop de raconter plus de ce que j'ai raconté.
Oui. Absolument incroyable. C'est l'Afrique du Sud après l'arrivée de Mandela.
Oui, oui, oui.
Donc vous l'avez quand même toujours connue un peu plus ouverte que du temps de l'apartheid, hein,
oui, ou c'est encore très présent? Oui, c'était pas très ouverte. Oui, on avait la femme de ménage, mais elle nous disait toujours qu'elle se sentait bien avec nous parce qu'elle sentait plus un sens de respect, etc. Mais ses copines qui étaient dans les maisons à côté, elles sentaient qu'il y avait que leur patronne était toujours pleine d'apartheid. Elle disait toujours comme ça, les autres ici sont pleins d'apartheid. Et donc non, et mon mari travaillait à l'université, donc il voyait toujours des groupes de blancs, des groupes de noirs, et il n'y avait absolument pas d'ouverture et intégration les premiers 7 ou 8 ans, il n'y avait pas d'ouverture du tout.
On va parler de Julia, du personnage de Julia, donc, puisque le roman est bâti sur deux portraits de femmes,
oui.
La mère et la fille, Carlotta, oui. Et Julia. Mais pour parler de vous encore, cette héroïne, Julia, vous y mettez beaucoup de vous dedans?
Il y a beaucoup de moi et de mes meilleures amies. J'en avais beaucoup, on s'échangeait vraiment beaucoup, mais oui, il y a vraiment toutes des expériences personnelles. Si ce n'est pas les miennes, c'est celles que j'ai entendues raconter, mais c'est tout vrai ce que je raconte, oui.
Et dans ce livre qui est très foisonnant, qui fait 300 pages, hein, qui est vraiment un livre long, oui. Vous prenez du temps pour expliquer ce qui se passe dans ce pays. Moi, ce que j'en ai ressenti, je l'ai fini hier, hein, donc c'est encore tout frais, d'une grande violence, d'une violence politique, d'une violence... vraiment de délinquance, quoi. Enfin, de mise en danger de sa vie.
Absolument.
Et de violence sanitaire à travers l'omniprésence du sida. Moi, oui. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Je savais que c'était un pays qui était très touché, mais à ce point-là, je n'y croyais même pas.
Absolument.
De viol d'enfants, de prostitution infantile. Enfin, ça donne vraiment... Enfin, excusez-moi, mais ça ne donne pas spécialement envie d'y aller. Oui. ni l'Afrique du Sud, ni le Mozambique, d'ailleurs. Ni plus le Lesotho, parce qu'à un moment, vous en parlez un petit peu.
Et pourtant, effectivement, pour aller le visiter, l'Afrique du Sud, c'est, je pense, un des pays les plus beaux du monde. Moi, comme touriste, je le suggère vraiment toujours, mais en y étant vraiment là, résident pendant longtemps, c'est vrai qu'on voyait aussi d'autres choses. Et ce n'est pas beaucoup, beaucoup dans le monde des expats. On sait que la criminalité, le pire, c'était dans celle qui s'appelle les townships. Donc, les villes à côté de la ville principale habitées uniquement par les locaux, les Noirs. Mais c'est vrai que, bon, il y avait toujours des règles à suivre. On avait des alarmes dans toutes les pièces, dans toutes les fenêtres. Il fallait suivre des règles sur les routes.
Vous allez chercher le pain, il faut juste la monnaie pour le pain.
Oui.
Il ne faut pas la carte bleue.
Oui, parce qu'on sait que ça pouvait arriver. Et en effet, j'ai des cas... J'ai une grande copine italo-sud-africaine. Son ami, il s'est trouvé des gens à la maison. Il n'a pas voulu donner la clé du coffre-fort et devant ses enfants, ils l'ont tué.
Ça, donc, c'est le personnage que vous avez récupéré peut-être dans le père de Christelle qui est...
En réalité, c'est un mélange avec un autre papa qui est mort pour des causes naturelles, mais oui. C'est exactement l'histoire que je raconte là. Et en effet, après, les enfants, ils souffrent parce que pendant des mois et des mois, ils voulaient dormir dans la chambre avec les parents. Et oui, on sait que ça pouvait arriver. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur. Mes enfants n'ont jamais compris les dangers parce qu'on faisait le plus d'attention possible. Et c'est 10 ans après, donc c'est maintenant que quand ils nous entendent parler, ils se rendent compte des choses et ils comprennent ce qui est la réalité numéro un du pays. Et c'est que c'est un pays plein de contradictions. Mm. Donc, c'est magnifique. Ma fille, encore il y a 2 ans, disait, mais pourquoi on n'est pas resté, pourquoi vous n'avez pas pris la nationalité sud-africaine? Elle se sentait vraiment de là. Et maintenant, elle se rend compte qu'il y avait des choses qu'elle ne savait pas et,
qu'était plus possible
les jeunes
à vivre.
ne se rendaient pas compte. Mm. Donc, nous, c'était, oui, le dimanche, on partait faire des safaris. C'était, la nature, c'est...
Si proche, on a l'impression vraiment qu'on fait quelques kilomètres et ça y est,
oui,
on est complètement...
Oui, à une heure, on est dans les parcs.
Est-ce que vous appelez, moi je ne connaissais pas, les 5... Alors le lion, les 5 animaux.
Ah, les Big Five. Oui. oui. Les lions, les buffles, les éléphants, le léopard.
Girafe, non, il ne fait pas partie de girafe,
non. Ah bon, c'est bon.
On le trouvera. Vous êtes de... Votre langue maternelle, c'est l'italien.
Oui.
Et le livre est écrit en français ou c'est d'abord écrit en italien et retraduit après?
Non, en réalité, il a été... Je l'ai écrit en italien et il a été publié en 2015 en Italie. Ça m'a donné, je dois dire, pas mal de satisfaction. À ce moment-là, j'étais lancée donc, sur les blogs littéraires, etc. J'ai eu beaucoup de bons retours. Mais oui, maintenant, ça fait 7 ans que j'habite ici, donc il fallait
c'est
qu'il
soit...
C'est
vous qui l'avez écrit en français. C'est votre style, c'est votre verbe, c'est vos mots.
Oui, mais comme vous voyez, c'est avec Servane Janteur, qui est une traductrice. Et donc, moi, j'ai fait la première partie, mais elle l'a travaillé pour le rendre vraiment plus français, plus fluide. La langue, moi, certaines tournures de phrases, etc., j'aurais jamais pu... les écrits comme il faut.
Parce que c'est une autre partie de votre activité. Vous êtes traductrice.
Oui.
Vous avez traduit notamment, quand je vous ai rencontré, j'ai eu le plaisir de lui offrir, mais le Badawi, le Bédouin de Moed Altrad. La poésie aussi, avec notre ami Renaud.
Voilà. Rouillet-Lombard.
Voilà.
Mais d'autres. Qui a écrit des haïkus. Et là, c'était, oui, un petit challenge.
Oui, j'avoue qu'alors, pour défi. Une Italienne ayant vécu en Afrique et vivant maintenant en France, traduire des haïkus japonais.
Oui. Non, mais j'ai commencé toujours en 2015. Au moment de faire sortir l'éléphant est déjà dans la valise, j'avais rencontré une personne que vous connaissez très bien, qui est Caroline Fabre-Rousseau. Et j'ai
que
traduit
j'ai reçu la semaine dernière pour son dernier livre, Les Arrivées d'Orenbourg.
Et j'ai traduit en italien son premier livre. Il s'appelle C'était malgré nous. Et donc, plus ou moins en même temps, l'éléphant déjà dans la valise est sorti. Et puis, son livre. Après, j'ai découvert là que j'avais ce goût énorme pour la traduction. Après, les haïkus, Monsieur Moed Altrad. Et j'ai aussi traduit vers le français. J'ai fait un grand effort, mais ça a été un travail très intéressant.
Plus difficile dans ce sens-là?
Énormément plus difficile.
C'est oui. Comment, quand on étudie l'anglais, moi j'étais bonne en version et pas en thème, ou le contraire, il y en avait un
bien
des
sûr,
deux qui étaient
plus. Il faudrait
facile.
Toujours traduire dans sa propre langue mère. Mais c'était un livre très intéressant que je voulais vraiment faire paraître en France et j'espère pouvoir en parler plus. En français, le titre est « Les Fivettes ». Et c'est d'une auteure italienne, Eleonora Mazzoni, qui a été d'abord actrice. Donc, elle a fait du théâtre, du cinéma et aussi de la télé. Mais peut-être on en parlera une autre fois. C'est un livre très intéressant.
Vous me l'avez amené ce matin, donc j'en dis plus pour les gens qui voudraient se le procurer. Donc, c'est Les Vivettes. C'est la même collection qu'elle venait d'Orenbourg, de Caroline Fabre-Rousseau, d'une fiction à l'autre, donc des éditions Chèvrefeuille étoilée, qui est une édition qui se spécialise plutôt dans les romans ou les textes de femmes.
Oui.
Et qui est basée à Montpellier.
Exactement.
Voilà. Donc oui, c'est un sujet en plus franchement intéressant sur la fécondation in vitro, puisque les fivettes, c'est ça, hein, c'est filles,
oui,
fivettes.
Oui, ouais. Oui.
On vient de nous en parler.
Vous, oui, pour... non, mais c'est intéressant parce que c'est un gros problème pour beaucoup de femmes, on s'imagine même pas. Et, mais c'est traité avec une grande ironie, donc ça laisse un message d'espoir, quelque chose de très ouvert. Donc je l'aimais beaucoup et j'ai fait l'effort de le traduire en français.
On parlait d'études littéraires, c'était quoi les grands textes qui vous ont porté, jeune femme, jeune fille, les premiers livres, le premier livre qui vous a bousculé ou un livre qui vous a bousculé, voilà, celui que vous par... enfin, on dit toujours le livre que vous emmèneriez sur une île déserte, alors pas sur une île déserte, mais un livre que vous emmèneriez au Mozambique.
je dois dire que dès que je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai rencontré une fille qui m'a fait entrer dans un club de lecture. Et là, j'ai découvert un auteur qui est prix Nobel et qui s'appelle Coetzee.
Oui.
J.M. Coetzee. Ouais. Et je pense qu'aussi en français, il s'appelle Disgrace. En anglais, en tout cas, c'est Disgrace. Et ça racontait l'Afrique du Sud que j'avais vue. Et là, j'ai adoré. Donc, je parlais plutôt de lui et de André Brink.
Oui.
Que j'adore. Mais si je peux suggérer, il y a aussi un auteur noir qui s'appelle Zeix Mda, M-D-A, et qui a écrit par exemple Madonna of Excelsior. Et là aussi, c'est vu. Je ne peux pas raconter, c'est basé sur des histoires vraies.
Ouais.
Il y avait des lois très particulières. Les noirs et les blancs et les filles noires ne pouvaient pas avoir des relations. Et là, il y a eu un cas avec un gros procès, des suicides et tout. Et cet auteur aussi, il est incroyable.
Vous avez beaucoup impressionné.
Mais pour le Mozambique, je dois dire que j'ai apprécié énormément la première femme écrivaine mozambicaine qui s'appelle Paulina Chitiane. Elle aussi, elle écrit sur les femmes, pour les femmes, et c'est d'une énorme ouverture parce que effectivement, le Mozambique a été colonisé par les Portugais.
Oui.
Et donc, c'est seulement en 1974 qu'ils sont partis. Après, ils ont eu aussi 20 ans de guerre civile. Donc, c'est un état très difficile.
On le
très
comprend, je l'ai
difficile.
Compris. Excusez-moi, oui. je vous arrête. Mais c'est vrai, oui, que quand j'ai écouté la musique, en lisant votre livre, j'avais envie d'écouter de la musique du Mozambique. Ça,
oui,
va un peu. Alors, du coup,
oui,
on s'est envoyé des petits mots en disant... Mais c'est vrai que c'est là où j'ai compris que l'influence portugaise, elle était très, très forte. Parce
énorme,
qu'on aurait presque,
oui,
dit... Césaria Évora, on aurait presque dit de la musique, plus proche de la musique, pas brésilienne d'ailleurs, mais presque cubaine. Enfin, c'est chouette, la musique du Mozambique est vraiment très originale, je trouve.
Oui, et un dernier auteur, effectivement, il est mozambicain. Il s'appelle Mia Couto. Mia, comme ça semble un nom de femme, mais c'est un homme. Et je l'ai vraiment rencontré à l'école française de Maputo. Donc, je ne suis pas trop timide dans ce cas. Donc, je me suis lancée pour lui parler. Et c'est lui qui m'avait incité à continuer et à écrire parce que je lui avais raconté un peu le début de mon histoire de l'éléphant. Et oui, c'est surtout ces auteurs-là qui m'ont poussée à écrire et à continuer sur ce sujet, surtout.
Ben avec c'est avec ces belles découvertes d'auteurs et ces noms que j'espère que vous avez notés, mais sinon on vous les redonnera sur la page Facebook de l'émission, que nous allons faire une petite pause musicale. Alors vous avez choisi Paradise de Coldplay, qui n'est pas du tout un groupe du Mozambique.
Non, 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 mais c'est mon fils qui un jour m'avait montré, il sait que mon animal préféré a été toujours l'éléphant, donc c'est pour ça que j'ai trouvé la façon de le mettre aussi dans le titre de mon livre. Et il y a justement un éléphant dans la clip, donc j'ai aimé.
Et il y a un autre clin d'œil, c'est qu'il y a toute une partie du livre à la fin qui se passe en Inde. Et
oui,
c'est vrai que
oui,
oui, souvent Coldplay fait rapport à l'Inde. À tout de suite.
Nous sommes toujours sur FM+, avec Paola Casadei pour son livre « L'éléphant est déjà dans la valise ». Il faudra que vous nous expliquiez le titre, c'est particulier.
Oui.
Paola, pour mieux rentrer au cœur de votre livre, j'ai choisi d'en lire un court extrait. Dès la première nuit, nous verrouillons toute la nuit coucher. On vérifie le portail, la première porte, la porte blindée, la deuxième porte. On tape dièse 1, 7, dièse, puis le numéro secret à 5 chiffres. Et enfin dièse, bip, 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 bip. L'alarme est en fonction maintenant. Nous nous sentons en sécurité. Julia sourit en se remémorant de l'autre versant de la réalité de ce pays fascinant. À une heure de là, vous entrez au cœur de la savane. Et ici, une autre Afrique du Sud commence. Qui ne veut pas entendre parler d'apartheid ou de crime? Ici, vous pouvez commencer à chercher l'un des Big Five. Éléphant, rhinocéros, buffle, lion et léopard. Et la visite des mines de diamants, et des parcs avec des guépards, des rhinocéros, des antilopes, des hyènes, des chiens sauvages, le sanctuaire des éléphants et le sanctuaire des crocodiles. En réservant à l'avance, on peut même assister aux performances des tribus dans leurs vêtements traditionnels, soto. Je m'arrête là, je laisse le lecteur continuer ce livre. Tout le livre est construit à travers le regard de ces deux femmes. Donc Carlotta, la fille qui a quoi, 17 ans?
17 ans.
17 ans. Et la mère, là je n'ai aucune importance, voilà. Oui. Mais, et c'est leur... tout ce qu'elles projettent en partant là-bas,
dans ce statut d'expat et tous leurs regrets. On sent qu'à chaque fois, puisque quand elles sont très attachées quand même à l'Afrique du Sud, et quand elles partent au Mozambique, elles ne le font pas de gaieté de cœur quand même.
Oui, et le choix de mettre deux héroïnes, c'est... au début, je voulais vraiment que ce soit Carlotta la protagoniste, parce que même si j'ai habité longtemps là-bas, je ne voulais pas donner l'impression de connaître l'Afrique. J'ai beaucoup lu. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup sur la visite à Inyaka, la petite île en face de Maputo, où c'est le seul où des hommes et des femmes, donc des adultes, parlent de l'Afrique. Je cite des livres d'Ambizaoyo et d'autres. Parce que, en tout cas, je voulais donner l'impression de quelqu'un, des jeunes qui découvrent. Donc, je ne voulais pas me présenter comme l'experte. Mais c'est vrai que j'avais trop à raconter aussi comme maman et comme adulte. Et donc, j'essaie de mettre quelque chose de plus léger en écrivant aussi quelques recettes. Mais...
Oui, il y a plein de recettes de cuisine. C'est pour ça, en off, je vous demandais comment on pourrait caractériser, dans quel rayon on pourrait mettre le livre. Parce que moi, je dirais quand même que c'est un récit de voyage, le plus,
oui.
Parce qu'il y a vraiment des émotions. Et puis voilà, c'est traversé de recettes de cuisine, c'est traversé aussi, moi il y en a un qui m'a beaucoup frappé, c'est le chapitre sur le cauchemar, c'est-à-dire que
oui.
sur ce qu'on vit dans la journée, comment oui. ça peut ressortir des années après, de peur, parce qu'on sent quand même qu'elle a, quand elle raconte ce cauchemar, que c'est un emmagasinement de peur.
Et tout ça, tout fait partie des contradictions du pays, donc l'insécurité, mais l'amour qu'on peut porter pour un pays comme celle-là, tout le temps.
Il y a tout le temps ça, c'est-à-dire que quand on sent que c'est dur, et en même temps, quand elles en partent, c'est terrible, quoi. C'est la fin d'un oui. bonheur, d'un état de grâce, d'une oui. liberté aussi.
Absolument, oui. Et le dernier, vraiment, la dernière raison pour laquelle j'ai voulu parler de Carlotta, c'est que j'avais lu beaucoup de livres sur les enfants de troisième culture. Donc, les enfants qui ont vécu une grande partie de leur enfance loin de la culture des pays des parents. Donc, j'ai découvert qu'il y a beaucoup qui tolèrent facilement, qui aiment, beaucoup qui s'installent facilement dans d'autres pays quand il y a la rentrée, etc. Mais ce n'est pas toujours pour tous la même chose. Donc, moi aussi, j'en ai deux. Mon fils, en 3-4 jours, une semaine, il était bien installé, mais ma fille, elle a mis 2-3 ans pour se sentir bien ailleurs. Et donc
après,
c'était
il y a
un
personnage très romanesque du petit-fils de leur plus jeune fils, qui est un enfant adopté. Je trouve que c'est formidable d'avoir fait
oui.
ce personnage qui, en définitive, alors lui, doit non seulement être expat, mais être expat dans sa presque sa propre vie, puisque
oui.
lui est du Mozambique.
Oui, oui. Et là aussi, j'ai raconté, il y a une petite page, je raconte de l'adoption. Parce qu'on sait qu'il y a des difficultés, il y a des temps très longs pour adopter, mais comme ma copine a adopté un enfant au Mozambique il y a 16 ans, ça s'est passé comme ça. Elle est rentrée comme dans un supermarché, on lui a montré 3 enfants, et ils lui ont dit, regarde, on a ces 3, tu choisis lequel, A, B ou C. Et donc j'ai voulu raconter, c'est plus romantique parce que il y a Carlotta qui retrouve ce petit dans le... Elle savait qu'ils oui. allaient prendre un enfant, adopter un petit frère, etc. Mais le fait de trouver un petit enfant noir dans le berceau...
Qui là, sourit.
C'était...
Qui
oui.
sourit.
Heureusement, lui a souri. Et...
Par
et
contre,
tout
les,
s'est passé
les
très bien.
Du côté italien, le vivent pas tellement bien, cette adoption, au début.
Non.
Il y a un regard quand même assez négatif sur cette
Oui,
sur
moi
cette
j'ai choisi aussi de mettre, de faire rentrer la famille en Italie plutôt qu'en France, vraiment pour essayer d'expliquer mieux à mes copines, à ma famille et tout, parce que ça fait maintenant 20 ans qu'on est partis, mais encore il y a quelqu'un dans la famille qui n'a pas accepté le fait qu'on soit partis, qu'on a dû partir. Là, je ne veux pas me mettre à parler des cerveaux en fuite, mais c'est le cas aussi de ma famille. On est parti parce que en France, on nous proposait un travail beaucoup plus intéressant que non en Italie. Donc, c'est pas... Ici, je vois beaucoup de familles qui, ben, juste pour l'école, à 18 ans, on choisit une école et souvent, on déménage et on reste ailleurs, etc. Mais chez nous, notamment dans ma région, moi, je suis originaire d'Émilie-Romagne, donc pas loin de Bologne. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde qui part et les familles seraient bien plus contentes d'avoir les enfants vraiment dans la même maison, à un étage de distance. Donc nous, on est partis pour 25 ans très très loin et ce n'est pas toujours trop accepté.
Il y a une autre valeur très très forte qui traverse tout le livre, c'est l'amitié. Carlotta et ses amis, Julia et ses amis aussi, des amis qu'on perd... qu'on retrouve, qu'on essaye de garder.
Absolument.
Avec maintenant cet outil formidable qui est quand même Skype pour conserver ça.
Et c'est tout vrai, c'est tout réel. J'ai toujours gardé des contacts. Ma fille et mon fils aussi, je vois, ils ont beaucoup de contacts. On va se revoir. Une de mes meilleures amies est russe. Et sa fille est venue cette année étudier à Aix-en-Provence, donc je vais l'attendre. Et moi, en avril, je vais faire un tour à Moscou et je vais retrouver cette grande copine avec laquelle on est quand même toujours en contact. Oui, Facebook, c'est WhatsApp, Skype.
C'est une liberté dingue.
Oui. Et c'est fondamental pour, vous pensez, quand une gamine de 16 ans, 17 ans, 15 ans déménage, si elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, les groupes sont déjà formés. Et,
vous le montrez très très bien ça, quand elle arrive, toute la période où vous décrivez son arrivée à la nouvelle école en Italie, le recul qu'elle a, déjà tout ce qu'elle raconte, qui paraît complètement extraordinaire pour tous les autres, extraordinaire et impressionnant, parce que du coup, ça donne entre elle et les autres enfants de son âge, enfin ados, une distance qu'elle recherche même d'ailleurs, elle ne cherche pas spécialement à emmagasiner les amis, surtout que celles qu'elle avait là-bas ont la même histoire, puisqu'elles sont toutes parties, il y en a une qui est en Inde, il y en a une qui est à Paris, je crois, ou dans le sud, même une à Montpellier.
Oui.
Et ça aussi, vous abordez bien la difficulté après pour toutes les familles de se rebâtir, notamment celle qui vient à Montpellier. Le mari n'arrive pas à retrouver, elle n'arrive pas à retrouver de travail. Oui. Enfin voilà, c'est plus du tout. Et tout ça, c'est par petites touches. Par exemple, quand vous dites à maman et Julia expliquent qu'elle ne se rendait pas compte là-bas comment elle était aidée pour la vie quotidienne. Ce qu'elle aimait, c'est très beau, c'est très bien dit ça. C'est à la fin du livre où elle dit « Je ne sais pas si en définitive j'aimais la vie là-bas ou j'aimais là-bas ». C'est-à-dire qu'elle aimait aussi être secondée. Il y avait plein de choses qui étaient faciles en définitive.
Oui. Et on n'aime pas... La vie là-bas, quand on est expatrié, on est toujours entouré de femmes qui sont dans la même condition. Donc, il y a toujours des groupes très intéressants. Le Maputo accueille et le Johannesburg accueille, par exemple. Et donc, après, on pense d'aimer, même quand Carlotta marche avec ses copines sur la plage de Ignaca, elle dit, je pars d'ici quelques mois, tout va me manquer. Elles lui font comprendre on est toujours externe, donc on aime les couleurs, on aime les paysages, on aime voir les gens qui sont sur la plage jouer, se baigner, etc. Mais on ne sera jamais quelqu'un d'eux. Et donc, oui, c'est... J'ai voulu dire plein de choses parce que comme j'ai lu dans un grand auteur italien, il a écrit la même chose. Quand j'ai écrit le premier livre, c'est que je devais tout dire, tout donner dans ce livre parce que je pensais ne pas pouvoir avoir des idées plus tard. Et là aussi, moi, j'ai voulu tout raconter. C'est une vie de 15 ans que j'ai voulu raconter là-bas.
Et c'est un très beau voyage, en tout cas. Nous, on arrive à la fin de notre voyage d'émission, Paola. Donc, on va se quitter. Et j'insiste... Allez acheter ce livre. Ce livre, on peut le trouver où ?
Sûrement sur le site de l'éditeur. Mais je pense qu'on peut le demander aussi dans des librairies, mais l'éditeur est assez petit. Je pense, il n'est pas présent sur beaucoup de librairies. Il faudra surtout le commander.
Donc, je pense
que c'est plus rapide directement chez l'éditeur.
Et vous, on peut vous retrouver sur plein de salons. On peut vous suivre. Là, vous étiez il n'y a pas longtemps à Saint-Clément.
Oui, j'essaie de participer. Oui.
Eh bien, je rappelle le titre de votre livre, L'éléphant est déjà dans la valise. Alors, pourquoi l'éléphant est déjà dans la valise? C'est quoi cet éléphant?
Ben, l'éléphant, c'est le petit peluche de Giacomo, le petit frère adopté.
C'est le doudou.
Qui est... Oui, c'est le doudou. Il s'inquiète parce qu'il veut toujours l'avoir avec lui et pas dans le conteneur qui amène toutes ses affaires à une...
Ben, je vous remercie beaucoup, Paola, pour ce moment. Et puis, donc, je recommande chaudement L'éléphant est déjà dans la valise de Paola Casadei, édition La Petite Hélène, et que vous pouvez commander chez tous vos libraires, chez votre libraire habituel. Faites vivre les libraires, surtout. Merci beaucoup, Paola.
Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Au revoir.
Au revoir.